Les errances du père Isaac de Ninive. On apercevait d'abord une silhouette noire, massive et tout en courbe, sous un habit de moine oriental basilien. Le visage, barbu comme il se doit pour les orientaux, pour imiter celui du Christ, était débonnaire, les cheveux châtains et les yeux noirs. Le père Isaac de Ninive, hiéromoine, c'est-à-dire moine prêtre, avait une histoire chaotique. Né en Italie, de père ukrainien naturalisé hongrois et de mère roumaine, il se retrouva orphelin de père à 3 mois. Sa mère se remaria avec un homme qui ne voulait pas du bébé. On le confia à un oncle de Roumanie qui faisait partie de la catégorie des prêtres mariés, suivant l'usage oriental, et l'intégra à sa petite famille. Le futur père Isaac s'intégra si bien qu'il rejoignit à 16 ans l'un de ses cousins, fils de cet oncle, dans une communauté religieuse clandestine. La journée, il allait à l'école communiste, et le soir, il réintégrait son monastère caché. Aussi, quand ses camarades de classe voulaient aller chez lui s'amuser, les suppliait-il de n'en rien faire. Le régime quotidien était rigoureux et le danger d'une découverte par la police toujours présent. Pour mettre les novices en condition, le père maître leur disait « Imaginez que vous soyez arrêtés et torturés par des instruments de dentiste. Il va falloir rester fidèle au Christ malgré tout et ne pas apostasier ou trahir. » Le pauvre moinillon en passait des nuits blanches, mesurant trop bien qu'une minute de ce traitement, sans la grâce de Dieu, était au-dessus de ses forces. Dans les faits, le monastère devait effectivement être découvert au bout de quelques années. Mais notre apprenti moine, ayant la chance d'avoir la nationalité italienne, fut simplement expulsé du pays, après toutefois que la police, dans un élan de confiance remarquable, lui est aimablement proposé de collaborer avec elle. Son cousin aura plus à pâtir, étant incarcéré avec le restant de la communauté. Mais là encore, la fraise du dentiste ne fut pas à l'œuvre. La torture consista à priver le pauvre religieux de sommeil pendant 8 jours et 8 nuits. Ce fut pour lui toutefois une épreuve à la limite du supportable. Le père Isaac avait également effectué ses 3 ans de service militaire obligatoire dans l'armée rouge. « Comment n'avez-vous pas été découvert ?» lui demandai-je. « Oh, les soldats avaient deviné qui j'étais. Ils disaient « Tu es moine, toi. » « Et alors, est-ce que vous mentiez ?»« Non. » Je souriais sans répondre. « Et ils ne vous ont pas dénoncé ? Il aurait suffi d'une seule indiscrétion. » Non. Le peuple avait beaucoup de respect pour les moines. Et puis on m'aimait bien, car je rendais beaucoup de services. Et dans vos études, vous aviez des cours d'athéisme qui avaient un fort coefficient, non? Comment faisiez-vous aux examens? Excusez-moi, mais vous parliez contre votre conscience, ou bien vous étiez recalé? Il pouffa discrètement dans sa barbe fournie. À l'équivalent du bac, j'ai eu de la chance. Nous avons été interrogés sur la conversion du prince Vladimir et le baptême de ses soldats. Ayant déjà étudié tout ça de près dans ma communauté, j'étais incollable sur la question. Je n'ai dit que la vérité historique. Le cours d'athéisme qu'on nous avait donné correspondait aux faits. Le futur père Isaac de Ninive pérégrina ensuite de Fribourg au Sinaï, d'Assise à Damas, au gré des obédiences qui lui furent données. En Syrie, nommé bras droit d'un certain évêque, il eut à confesser des chrétiens locaux qui parlaient leur dialecte. Rien à voir avec l'arabe littéraire qu'on lui avait enseigné. Atterré, en découvrant qu'il ne comprenait rien à ce que les pénitents lui disaient, et pris de court, il se contentait de remarques générales et évasives sur la vie chrétienne. Très vite, les villageois se passèrent le mot. « Tu peux tout dire en détail. Le prêtre étranger ne comprend rien. Et son confessionnal connut une affluence suspecte. L'année suivante, pendant le carême, une délégation de ceux-ci vint trouver l'évêque. « Nous voudrions pour les confessions de la semaine sainte le même prêtre que l'année passée, l'étranger. » L'évêque ne fut pas dupe, des bruits avaient couru, et l'expérience lui avait enlevé toute illusion sur la pureté d'intention et la ferveur de certains diocésains. Après la Syrie, le père Isaac se retrouva dans le désert du Sinaï, où il fraternisa avec un ermite orthodoxe vivant dans une grotte. Ce dernier lui raconta ses déboires lorsque l'armée israélienne occupa la contrée. Ce fut un contingent féminin qui fut envoyé sur place. Les soldates, hors d'elles, se dénudaient le soir et venaient beugler des insanités du genre « Vieux fou, sors de ton trou !» Inutile de préciser qu'ils se barricadaient alors avec le plus grand soin en réprimant des qualificatifs peu flatteurs. À l'époque, j'étais jeune et fort, mais je n'avais aucune envie de les détromper, ajouta l'ermite orthodoxe. Le père Isaac avait alors à travailler à la bibliothèque du séculaire monastère Sainte-Catherine du Sinaï, sans toutefois être hébergé au monastère, car on le considérait comme un dangereux schismatique à la solde du pape de Rome. Mais ce n'était pas la fin de ses aventures. Quelque temps plus tard, il passait par la Grèce. Désireux de visiter la fascinante république monastique du mont Athos et ses fameux monastères, il s'habilla en civil et cacha soigneusement son caractère de moine basilien rattaché à Rome. En effet, expliquait-il avec un sourire qui en disait long, si les moines orthodoxes avaient appris que je suis un infâme traître grec catholique, ils m'auraient jeté à la mer, et je ne sais pas nager. Eh oui, les relations avec les demi-frères sont en général plus épineuses que celles avec des étrangers dissemblables en tout. C'est une considération que j'ai reconnue valable dans bien des groupes humains. Il y a des contentieux parfois séculaires, voire millénaires. En Suisse et en France, il s'adapta sans difficulté, malgré la différence de culture. Quand je l'ai connu, il confessait les sœurs de notre Carmel et leur donnait des cours, à l'occasion, sur les pères de l'Église et l'histoire du christianisme. Avec certains chrétiens locaux, il avait parfois plus de mal. « Je ne peux pas les tuer, il faut bien que je les supporte », concluait-il avec un sourire discret dans sa barbe noire. Par la suite, j'ai appris qu'il était en Italie, à Assise, au moment du tremblement de terre qui endommagea le fameux couvent franciscain. Nouvel exil, il quitta ce lieu où il était hébergé pour ne pas déranger, vu les problèmes qui s'ensuivaient. Puis j'ai perdu sa trace. Mais nul doute que de nouvelles aventures lui soient préparées par le Très-Haut qui conduit les pas de l'homme juste. Étrangers et voyageurs sur la terre, nous n'avons pas ici-bas de demeure permanente.